C'est l'une des principales informations économiques de ce début du mois d'août. Le groupe Apple a été valorisé à 1000 milliards de dollars et c'est une première en termes de capitalisation d'entreprises privées. Ça illustre comment les GAFAM sont devenus des mastodontes, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Et bien jusqu'où ces entreprises américaines sont-elles capables d'influencer non seulement nos habitudes de vie mais aussi l'économie mondiale? Et bien c'est le thème de cette matinale jusqu'à 9h moins le quart avec notre invité. Bonjour Gilles Babinet.
Bonjour.
Vous êtes vice-président du Conseil national du numérique et aussi Digital Champion de la France, autrement dit le défenseur du numérique pour la France auprès de la Commission européenne. Alors Apple, valorisé à 1000 milliards de dollars, ça en fait l'entreprise la plus chère du monde. Ça veut d'abord dire que les investisseurs ont largement confiance en l'avenir des GAFA.
Oui, je ne sais pas si les investisseurs ont largement confiance en l'avenir des GAFA.
Mais la capitalisation, c'est bien ça.
Pour l'instant, ils reconnaissent le succès de la stratégie d'Apple, qui est une entreprise qui n'a pas beaucoup innové ces derniers temps, puisqu'elle n'a pas lancé de nouveaux produits depuis 2011, mais qui est extrêmement performante et qui réussit à se maintenir alors que les concurrents sont nombreux, notamment chinois, et que l'on vend de plus en plus de smartphones partout.
1000 milliards de dollars de capitalisation, ça veut dire aussi que ces entreprises ont des budgets qui sont bien souvent supérieurs au budget même des États de la plupart du monde. Est-ce que les GAFA discutent quasiment désormais d'égal à égal avec les chefs de la planète, les dirigeants élus de la planète?
C'est indubitable. Il y a à cet égard un glissement de souveraineté que l'on observe partout. Et l'on voit ces entreprises dont le chiffre d'affaires est considérable, dont la valorisation, si je prends l'ensemble des GAFA, est supérieure à celle du PIB de la France. C'est pas des choses qui sont nécessairement comparables, mais ça nous donne une idée de leur puissance. Et on voit ces quasi-États se retrouver en position de force dans des négociations internationales. On se souvient, par exemple, de l'échange de Tim Cook avec Madame Vestager, qui est commissaire européenne à la concurrence, où Madame Vestager était sortie de cet entretien en disant « j'ai presque été menacée ». On voit bien que ce sont des gens qui sont pas dans une logique nécessairement d'obéir directement à la régulation, mais de négocier. J'ai eu le souvenir d'un échange avec le patron des affaires publiques de Facebook il y a quelques années, et qui m'avait clairement dit on est dans une position où on pense que on comprend des choses que les États ne comprennent pas, et on pense que c'est notre rôle de les influencer sur leur perception de la façon optimale de nous réguler.
Et pour poursuivre les exemples, on a vu aussi le patron d'Apple aller discuter de la réforme fiscale américaine avec Donald Trump. Sauf que Donald Trump, lui, il voit ça plutôt d'un mauvais œil, hein, toutes ces GAFA. Pour lui, c'est de la concurrence presque déloyale.
Oui, Donald Trump est pas du tout un ami des GAFA. Et en particulier, il a dans le nez Amazon. Amazon qu'il considère détruire, à juste titre d'ailleurs, les économies locales. Et il a demandé à la poste américaine de remonter ses tarifs de sorte à ce que elle n'aide pas de façon indirecte Amazon.
Avec des valorisations à 1000 milliards de dollars ou aussi à 900 milliards, ça se joue à pas grand-chose hein, pour les autres entreprises des GAFAM. Est-ce que les États sont encore capables de les réguler?
Je pense que c'est un enjeu qui va s'exprimer tout au long des décennies à venir, la façon dont on va pouvoir travailler avec ces acteurs-là. L'OCDE, un organisme qui est situé à Paris, qui s'occupe d'économie au niveau international, observe que désormais ce sont ce qu'ils appellent les frontières firmes, c'est-à-dire des entreprises qui sont devenues globales, qui bénéficient des avantages de la révolution numérique, qui mènent la danse, c'est elles qui captent les gains de productivité, et on ne sait pas très bien comment fonctionner avec non pas ces grandes entreprises et faire en sorte qu'on les régule. Donc il y a une réflexion qui commence à avoir lieu à une échelle internationale. La France d'ailleurs n'est pas en reste puisque elle a lancé un certain nombre de travaux à cet égard. Et on essaye de voir comment est-ce que on pourrait avoir des États qui soient sans doute plus principiels, c'est-à-dire qui expriment des notions fondamentales, des notions de service public et puis des notions d'égalité devant le droit qui s'appliqueraient également à ces GAFA. Mais ça nécessite que on s'entende au niveau international parce que ces entreprises, pour la plupart, évoluent dans le monde qui est celui du numérique, un monde très très virtuel où on se joue assez facilement de la régulation parce que on a beaucoup moins d'emprise sur ces entreprises parce qu'elles ne sont pas forcément des travailleurs locaux dans chaque pays.
Et puisque les GAFA génèrent des situations de monopole, vous dites qu'il faut réinventer des politiques antitrust, mais sur quelle base ?
C'est le vrai sujet, ces entreprises sont pas forcément dans des abus de position dominante comme on les voyait à l'époque de la Standard Oil aux États-Unis. Néanmoins,
celle de Rockefeller, et ça a été divisé ensuite divisé en lots.
Exactement, qui ont été démantelés. Néanmoins, on voit qu'elles ont des capacités de perturbation extrêmement fortes sur les marchés. Et il y a une réflexion, notamment dans le cadre du Conseil national du numérique, mais pas que, sur comment, par exemple, on pourrait se servir non plus des parts de marché exprimé, mais de la data, du nombre de données qu'elle possède sur les citoyens, les consommateurs, pour potentiellement créer une nouvelle forme de régulation. Ce sont évidemment des travaux qui sont à leur début, mais je crois qu'il faut non pas considérer que la régulation est intangible, mais qu'elle est avant tout au service des citoyens et potentiellement la faire évoluer sur des cadres nouveaux.
Parce qu'il ne faut pas compter sur les GAFA pour s'auto-réguler.
Non, c'est ce que disent beaucoup les acteurs américains qui sont d'origine très libertarienne. Ils disent « laissez faire le marché et vous allez voir, ça va bien finir ». Or, ce que l'on observe, c'est que ça finit pas bien et que pour le moment, on voit surtout la première phase des grands mouvements schumpeteriens, c'est-à-dire une destruction très très forte de l'emploi, notamment dans le monde marchand aux États-Unis. On ne voit pas du tout la deuxième, c'est-à-dire la recréation d'une nouvelle forme économique. Et c'est vrai que c'est relativement inquiétant parce que ces gains de productivité, ils sont pour le moment entassés dans les coffres de ces GAFA. On estime que si on prend les 20 plus grandes entreprises américaines, celles-ci détiennent aux alentours de 700 milliards de dollars de trésorerie. Et cet argent n'est pas réemployé, même pas dans l'économie numérique.
Mais ils en font quoi ? Ils stockent l'argent ?
Ils le stockent, ils le thésaurisent en bons du trésor américain. C'est la démonstration d'ailleurs d'une distorsion économique majeure.
Mais c'est donc peut-être aussi pour payer des amendes, puisqu'on se rappelle qu'en Europe, la commissaire à la commission, à la concurrence, Margrethe Vestager, avait réussi à faire condamner Google pour des défauts de fiscalité. Donc, compte tenu de la puissance financière des GAFA que vous venez de mettre en évidence, ces mises à l'amende finalement, est-ce qu'elles sont efficaces ?
Je pense qu'elles sont efficaces parce qu'elles démontrent le fait qu'il y a des distorsions. Néanmoins, vous venez de le dire, si je prends les amendes qui ont été dressées à l'ensemble des GAFA, j'arrive à moins de 22 milliards de dollars sur les dernières années. Ça n'est que tout juste les rachats d'actions que vient de faire Apple à l'occasion de l'annonce de ses derniers chiffres fiscaux.
Apple donc devenue au début du mois l'entreprise la plus chère du monde à 1000 milliards de dollars de capitalisation face aux mastodontes que sont devenus les GAFA. Quelles conséquences pour nos habitudes de vie et pour l'économie mondiale ? On va poursuivre cet entretien avec les auditeurs de France Inter. Le standard est ouvert, 01 45 24 7000. Vos questions à notre invité Gilles Babinet, vice-président du Conseil national du numérique et surtout digital champion de la France, autrement dit l'interlocuteur privilégié de la France auprès de la Commission européenne sur les questions numériques. Il est 8h30.
France Inter, le 6-9 de l'été, intervenez.
Avec une première question de Didier, vous nous appelez du Gers. Bonjour Didier.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question ?
Je voulais savoir s'il y avait des moyens de faire payer un impôt, une taxe, etc. à ces grands groupes qui gagnent énormément d'argent dans le pays et qui ne payent pas d'impôts.
Gilles Babinet, y a-t-il moyen de faire pression pour faire payer des impôts et autrement que dans les paradis fiscaux ?
Oui, il y a évidemment une réflexion à cet égard. Il faut savoir que le principe de l'impôt aujourd'hui est arrêté sur ce qu'on appelle l'établissement stable, c'est-à-dire où se trouvaient auparavant les usines, puisque c'était l'outil productif principal. Maintenant qu'on a virtualisé l'économie, on a beaucoup plus de mal à saisir ça. Donc il y a des travaux à l'OCDE, notamment dans le cadre de BEPS, qui ont lieu, qui prennent du temps, mais il faut revoir la base d'imposition telle qu'elle existe et avoir un rapport plus équitable entre finalement le siège social et les zones de consommation. On essaye de créer un impôt qui ressemblerait un petit peu à la TVA, mais sur une base plus de valeur ajoutée distribuée à une échelle mondiale.
Mais on pourra créer tous les impôts qu'on veut. Comment les GAFA n'iront plus dans les îles fiscale, oui, avantageusement fiscale.
Le principe du sandwich hollandais que vous évoquez est évidemment très largement décrié, c'est-à-dire de ramener ses profits dans des zones où ils ne sont pas taxés. Quand l'économie se virtualise, c'est beaucoup plus facile à faire qu'auparavant, et quand elle se globalise, c'est encore plus facile. Et donc ces deux phénomènes concomitants font que il n'y a plus de prise du tout sur l'impôt. C'est un enjeu qui est absolument déterminant pour la souveraineté des États, parce que s'il n'y a plus d'impôts et que vous avez des entreprises qui sont riches, les entreprises font plier le droit commun, et finalement, vous avez des distorsions qui profitent plus aux citoyens, mais aux consommateurs, et encore. Et donc, on est conscient de ça, et on essaie de le faire évoluer. Je crois que ça passe d'abord par la disparition des paradis fiscaux. Il y a quelque chose d'assez offensif qui a lieu à cet égard. Et puis, des accords internationaux. Là, c'est plus difficile parce que il n'y a plus du tout l'entente qui existait dans les années 2000 ou les années 90 entre les États. Chacun tire la couverture à soi. Néanmoins, on voit bien que c'est indispensable.
Alors, si l'Europe semble être en pointe pour lutter, en tout cas, tenter de lutter contre l'évasion fiscale des GAFA, en revanche, aux États-Unis, la FTC, la Federal Trade Commission, elle, qui fait office de régulateur, elle est beaucoup moins contraignante.
Oui, quoique j'observe qu'il y a des réflexions aux États-Unis, il y a quand même une opinion publique qui est très remontée contre les GAFA aux États-Unis, et je pense que même si c'est pas forcément la même base qui s'exprime, c'est beaucoup plus une base populiste aux États-Unis, je doute que ces entreprises puissent continuer à agir comme elles l'ont fait jusqu'à présent, parce que le mouvement gronde et croit.
01 45 24 7000, vos questions ce matin à Gilles Babinet, le vice-président du Conseil national du numérique et l'interlocuteur privilégié de la France auprès de la Commission européenne sur les questions digitales. Une question de Patricia au standard de France Inter. Bonjour Patricia.
Oui, bonjour. J'aurais souhaité savoir quel est le sens de la course au gigantisme que nous menons donc avec le système économique, enfin l'idéologie économique à la manœuvre, puisqu'on sait enfin à la fin qui gagne.
Oui, c'est une bonne question.
C'est le réchauffement planétaire.
Ouais. C'est vrai. Gilles Babinet va vous répondre.
C'est une bonne question. Vous savez, on a découvert dans des travaux économiques, c'est l'école de Chicago entre autres, que la globalisation était au bénéfice de tous. On le voit d'ailleurs dans le cadre des blocages des taxations américaines. Plus vous retirez les taxes, plus vous avez des opportunités économiques. Néanmoins, on ne tient pas beaucoup compte des externalités sociales et environnementales que créent ces phénomènes de globalisation. Et de plus en plus, un certain nombre d'acteurs s'insurgent et disent est-ce que tout ça continue à faire du sens pour les citoyens, sachant que on n'a qu'une seule planète. Et donc je vous rejoins assez, je pense que certes, il faut pas se refermer brutalement de façon un peu poujadiste ou populiste, mais il faut commencer à prendre en compte les externalités dans les échanges marchands internationaux. Et je crois que l'économie qui devrait émerger dans le cadre du numérique devrait plus qu'aucune autre prendre en compte ces dynamiques, sinon je pense qu'on va nulle part.
Cela dit, une entreprise comme Amazon, lorsqu'elle s'implante dans une région française, comment est-ce qu'elle impose ses conditions aux élus locaux? Ça passe toujours par des exonérations de charges,
hein. Ça, c'est tout à fait c'est problématique, effectivement. Vous avez une forme de course aux armements et vous avez des subventions pour vous installer et qui font que à la fin les externalités vous en tenez que assez peu compte. On est assez court-termiste dans ces approches. Donc là je crois que il faut voir les externalités d'acteurs comme Amazon qui sont très pénalisantes parce qu'ils sont tellement efficaces que tous les acteurs de distribution locaux vont disparaître. Donc ils s'opposent de façon assez forte à ce qu'on appelle notamment l'économie circulaire et on voit bien que aussi bien sur le plan environnemental que social c'est potentiellement problématique et assez peu étudié finalement.
Je voudrais juste souligner un ratio. On parlait de 1000 milliards de capitalisation pour Apple. C'est une entreprise qui emploie seulement près de 100 000 personnes. Est-ce que les GAFAM sont et seront générateurs d'emplois?
Pour le moment, non. On peut pas dire ça. Je crois que quand vous prenez les ratios de chiffre d'affaires ou plus encore de résultats par employé, ils ne sont jamais observés dans l'histoire. C'est les plus élevés qui existent. Et donc vous avez un très petit nombre de travailleurs pour une très très grande valeur créée. Valeur qui d'ailleurs est thésaurisée. Et donc est-ce que c'est un mouvement transitoire qui est appelé à connaître une fin et finalement par la concurrence de nouveaux acteurs, ou est-ce que, comme on dit en anglais, winner takes all, le gagnant,
c'est celui qui gagne, ramasse, qui la mise, ramasse la mise
et le ramasse durablement. L'économie de la data, plus vous avez de data, plus vous êtes avec des barrières qui sont indéplaçables, nous laisse à croire que finalement il n'y a pas de phase de transition, mais c'est une phase qui est durable. Et c'est pour ça sans doute qu'il faut réguler. Pas seulement, mais c'est une bonne raison de réguler.
Au standard de France Inter 01 45 24 7000, il y a Benjamin de Saint-Ouen. Bonjour Benjamin.
Oui, bonjour. Vous dites que les GAFA appliquent des méthodes de force. Or, l'Inde menace d'interdire Apple, comme elle a interdit le Coca-Cola. Est-ce que finalement, faut pas répondre par la force à la force ?
Je pense qu'il faut éviter, il faut essayer d'avoir au contraire une construction intelligente. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, on pourrait très bien dire on va interdire les GAFA. D'une part, je ne pense que les consommateurs citoyens ne seraient pas d'accord. Pour nombre d'entre eux, on voit finalement la valeur qu'ils accordent à ces marques. Et puis au-delà de ça, il faut comprendre ces nouvelles dynamiques. C'est-à-dire que ces nouvelles dynamiques, elles amènent aux consommateurs des produits de très très bonne qualité et puis des externalités qui sont problématiques. Il faut essayer de permettre à ces produits, à cette innovation de continuer de se développer, parce qu'elle est finalement à notre bénéfice à tous, et d'être capable de contrer les externalités sociales et environnementales qui sont négatives.
À propos d'interdiction autoritaire, on peut rappeler aussi que les États-Unis interdisent aux Chinois Huawei de s'implanter aux États-Unis. Or, Huawei, c'est le téléphone chinois qui vient de dépasser Apple en nombre de smartphones.
Oui, oui, Huawei, c'est une entreprise qui est récente, hein, qui a moins d'une trentaine d'années, qui est devenue le leader mondial des télécommunications, surtout en infrastructure, qui est un grand acteur dans le domaine des smartphones, qui se développe extrêmement vite, et pour les infrastructures, qui a été interdit aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est une interdiction qui est fallacieuse et qui vise à protéger des acteurs américains, ou est-ce que, comme le clament les acteurs américains, c'est pour des raisons de sécurité nationale? C'est très difficile à dire, puisqu'il n'a jamais été prouvé que Huawei avait des failles de sécurité au profit des systèmes militaires américains. Néanmoins, ils agissent de façon très impérative, et ça pose la question de savoir si l'Europe a un levier politique suffisant. Alors je crois que on entend souvent des plaintes à l'égard de l'Europe, mais je crois qu'il faut être conscient que notre seule chance, nous, Français et Européens, finalement, de devenir un grand acteur et d'avoir une façon de voir les enjeux d'environnement et les enjeux de société, les enjeux sociaux, de façon différente de ceux de la Chine et des États-Unis, c'est d'exister politiquement. Donc dans un an, on va avoir des élections. On peut évidemment choisir le renfermement sur les membres, chacun des États qui composent l'Europe, ou au contraire, on peut donner un sens politique plus fort à cette Europe. Et je pense que c'est notre seule opportunité, quasi historique, finalement, de créer un message fort, un message politique qui dise, nous, on veut un modèle différent, on veut un modèle social et environnemental qui soit le nôtre et qui tienne en compte les gens plutôt que les consommateurs.
Sur l'influence des GAFA qui sembleraient parler d'égal à égal désormais avec les chefs d'État, cette remarque de Christophe sur le site de France Inter, on a beaucoup entendu les GAFA critiquer Trump lors de sa prise de fonction, dit Christophe, mais beaucoup moins de critiques depuis sa réforme fiscale. Il laisse entendre qu'il y aurait eu des deals entre le chef de l'État américain, enfin entre le chef américain, le président américain et les GAFA.
Je ne sais pas s'il y avait eu un deal, mais il est certain que les GAFA, plus qu'aucune autre entreprise, bénéficiaient de ce système d'isolation des bénéfices dans les paradis fiscaux et ont pu en rapatrier une partie à cette occasion à très bon prix. C'est-à-dire la taxation était réduite et évidemment, ils n'ont pas critiqué cette réforme. Pour le moment, ils sont dans une logique de continuer à se développer en bénéficiant des abattements fiscaux américains. Ils ne critiquent qu'assez peu finalement la politique du président Trump, et les distorsions ont plutôt tendance à s'accroître au détriment des autres zones économiques et en particulier de l'Europe.
On a vu récemment, on a eu la confirmation avec Facebook que nos données privées pouvaient être utilisées à notre insu à des fins politiques. C'est le scandale Cambridge Analytica, un peu comme dans un film d'horreur. Est-ce que la créature a bel et bien échappé à son créateur ?
Oui, d'une certaine sorte. Je crois qu'on a pas vu le potentiel immense des données. On voit que ces données permettent de créer des nouveaux services tous les jours. Je dis souvent, un acteur comme Amazon a débarqué dans le monde du film et est devenu un acteur quasi dominant en seulement quelques années grâce à la data. Et je pense que il est temps de reprendre en main ces enjeux-là et d'avoir des régulations qui sont assez strictes à l'égard de ces acteurs.
Et quand l'Europe adopte en mai dernier un règlement, le RGPD, un règlement général sur la protection des données pour garantir le secret de nos informations laissées sur la toile, est-ce que ce RGPD a véritablement un bel avenir en Europe, mais peut-être aussi ailleurs ?
Oui, le RGPD, c'est déjà une norme mondiale. C'est-à-dire que, vous voyez bien que les entreprises américaines notamment, elles disent, bon, on va rendre nos services compatibles RGPD, et puis parce que c'est plus simple finalement, on va faire en sorte que les services RGPD vont être étendus au monde entier. J'observe que même si on considère que la Chine est un pays qui est très libéral en matière d'utilisation de la donnée, ils envoient des délégations à la Commission européenne pour regarder comment fonctionne le RGPD. Les Américains, la FTC,
la Federal Trade Commission
regardent comment fonctionne le RGPD, s'y intéressent, et on voit bien que finalement, les droits fondamentaux passent d'une certaine manière par le RGPD, donc c'est un texte qui est probablement là pour durer.
On a malheureusement que quelques secondes pour répondre à cette autre question des auditeurs sur l'addiction que l'on peut subir avec les produits des GAFA, le téléphone au bout du pouce. Là encore, faudra-t-il réguler cette addiction ? Quelques secondes, pardon.
Je pense que j'étais un des premiers à soulever ça dès l'année dernière. C'est un enjeu majeur de santé publique. On voit une explosion de la dépression chez les jeunes aux États-Unis et une forte corrélation avec les réseaux sociaux. Et je pense que ça va être un enjeu majeur de santé également en Europe.
Et Gilles Babinet, merci beaucoup d'être venu ce matin par France Inter. Je rappelle que vous êtes président du vice-président du Conseil national du numérique et donc Digital Champion de la France, autrement dit le défenseur du numérique pour la France auprès de la Commission européenne. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur France Inter.
Merci beaucoup.